Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auposte.fr.
Amis des livres Orange, amis des manifestes du web. Au début des années 90, le web entendait tout changer, changer jusqu'à la démocratie, la communication, changer les rapports de pouvoir. Bonjour Lou Sellard, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça. Salut, merci pour l'invitation, salut au chat.
Ne t'inquiète pas, ici c'est le web 00, c'est-à-dire c'est le web avec le chat, c'est-à-dire ce web où nous étions tous et toutes émetteurs, émettrices et récepteurs, réceptrices, où il n'y avait pas ces histoires de centralisation. Comment ça va, Lou ?
Ça va bien. Moi j'étais peut-être pas né à ce moment-là, mais on va y retourner.
C'est ce que j'ai compris.
De trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images.
La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste.
Les hackers avaient leur manifeste, les cyberféministes leur slogan, les libristes leur licence, et puis les GAFAM ont construit leurs murs, les États leur filet de surveillance, et l'IA générative a avalé le reste, bien qu'il ne soit pas question d'IA dans ton ouvrage, qui est une anthologie. Tu es chercheur à l'Université de Paris-Saclay, tu publies donc « Promesses et utopies », une anthologie des manifestes du web aux éditions B42, dont on va voir qu'ils savent faire des beaux ouvrages. 29 textes de John Perry Barlow à Richard Stallman, un obscur mini-réseau français très favorablement connu de nos services, une archéologie politique des rêves numériques pour bon nombre, traduit en français pour la première fois, avec une introduction qui met des claques. Est-ce que cette présentation va bien ?
Ouais, très bien, je valide. Un livre 100% sans IA.
Un livre 100%, ah oui, bah oui, bien sûr, qui était là avant. Je dis que tu mets une claque parce que, en fait, tu nous préviens, la mélancolie de gauche comme position confortable, ça va pas. Nous ne sommes pas là pour être mélancoliques.
Ouais, effectivement, c'était un point. En fait, à la base, je pense que c'était un espèce de pied de nez à mes collègues qui pour beaucoup, en fait, sont dans cette posture de c'était mieux avant, l'âge d'or du web, âge d'or que finalement, en fait, déjà moi que j'ai pas connu, en fait, vu que moi j'arrive un peu dans le web
en 2011.
Ouais, voilà, mais
alors... Tu te trahis dans un... Enfin, tu te trahis. Tu expliques que tu déboules en 2011. Je me dis, d'accord, le gamin. Ok, d'accord.
Mais oui, donc en fait, 2011 et très vite, en fait, 2013, c'est l'affaire Snowden, qui révèle un grand programme de surveillance qui est très problématique. Et donc, du coup, très vite, moi, dans le web, je suis déjà dans un truc où, en fait, déjà, ça va pas, quoi. Donc en fait, j'ai pas eu ce réflexe mélancolique. Après, bon, il y a des gens qui disent la mélancolie, ça peut se transmettre, en fait, hein, d'une certaine manière. Je suis pas là à dire que tout le web d'avant est à jeter. Mais en tout cas, la position mélancolique est une fois une manière de s'attacher un peu à ses blessures et de pas remettre en cause, des fois, où est-ce qu'il y a eu des échecs, en fait. Et c'est pour ça que le livre, il essaye de plutôt poursuivre et de donner des pistes pour l'avenir, quoi.
Mais je me permets de t'interroger là-dessus. On va évidemment rentrer dans le détail de tous ces... Enfin, on ne va pas aller tous les brosser, mais d'un grand nombre de manifestes dont certains sont archi connus et d'autres pas du tout, et tous sont absolument intéressants. Mais j'ai été happé par cette idée de mais qu'est-ce que c'est que cette mélancolie et cette critique du web qui serait, si j'ai bien compris, hantée par des futurs perdus. Et tu dis ça c'est un peu confortable, etc. Mais je te provoque exprès. Est-ce que c'est de la mélancolie ou est-ce que c'est de la lucidité? Parce que il y a un terme que tu n'emploies pas qui pour moi est beaucoup plus gênant, c'est celui de la nostalgie. C'est-à-dire celui de « c'était mieux avant ». Mais la mélancolie, ça peut être plus politique que ça, non ?
Ouais, non, bah, en fait, t'as raison, il y a plein de sentiments mélangés. Effectivement, le mot qui n'est pas aussi dedans, c'est lucidité. Hein. C'est vrai que si on fait le constat froid, il y a plein de choses qui ne fonctionnent plus. Le web est vraiment beaucoup plus problématique, capitaliste et tout ça. Après, nostalgie, en fait, ça dépend les positions des gens. Effectivement, il y en a qui vont être, je pense, ouvertement nostalgiques, y compris... voilà, des sociologues qui travaillent sur le sujet et tout ça. Je pense qu'en fait, c'est une position confortable parce que, aussi, en partie, je pense qu'elle nous rappelle à notre elle nous ramène à notre jeunesse pour certains. Et je pense qu'il y a un côté très psychologique à ça qui inhibe, en fait, plein d'autres manières d'analyser les choses, quoi.
Est-ce que tous les ouvrages ont droit à ce magnifique autocollant doré et qui le colle ?
Alors, c'est un autocollant iridescent, je crois que c'est le terme consacré. Non, tous n'y ont pas droit, mais c'était un côté un peu sticker militant, quoi.
Un petit côté sticker militant. Relire les histoires oubliées de ces hackers, hackeuses, artistes et autres informaticiens, informaticiennes, iconoclastes, nous permet de cerner la justesse et l'actualité de leur diagnostic critique. Cet ouvrage, le tien, donc, dessine une cartographie de l'espace des alternatives politiques et technologiques que ces récits ont ouvert. Il peut se lire à la fois comme une introduction à la culture numérique à travers ses manifestes et comme une archive inédite des désirs de transformation de notre rapport aux technologies numériques. Autrement dit, on parle du passé pour parler du présent et du futur. C'est ça l'astuce.
C'est ça un peu le but, effectivement. À la fois, ça fait une archive, puisqu'il y a plein de textes qui étaient plus mis en circulation, qui n'avaient jamais été traduits. Donc même les experts du domaine quand même trouveront des choses qui connaissent pas du tout. Et effectivement, moi je voudrais poursuivre les choses sur le futur et sur le présent pour pas rester dans ce truc de passéiste un peu quoi.
On va voir que par moment ça rappelle au poste ce dont tu parles. Et notamment, par exemple, il y a un dénommé Andrew Sullivan, page 13, qui en 2002, à propos des blogs, mais on pourrait tout à fait dire que c'est... en tout cas, on peut transposer ça pour les streams. La deuxième chose, écrit Andrew Sullivan, que font les blogs, c'est, pour citer Marx, de s'emparer des moyens de production. J'aime beaucoup cette citation que tu mets quasiment en exergue et qui, en fait, parcourt un peu un bon nombre des textes, cette idée de posséder, en tout cas de piloter, de conduire ces moyens de production.
Non, mais ça, c'est sûr qu'il faut... Bon, même si voilà, le web a changé, c'est problématique et tout ça, il y a quand même...
Non, mais passons.
Non, mais voilà, il y a quand même des choses qui fonctionnent et qui sont quand même, si on y réfléchit, quand même encore incroyables. Le fait qu'avec quand même très peu de moyens, on peut librement mettre des choses en ligne. Quand on y réfléchit, tu vois, par rapport à la question de la télévision, le fait que quand même, on n'aura jamais accès... À la télévision pour plein de gens en fait. Donc je pense qu'il y a quand même un truc de se dire c'est quand même encore incroyable qu'on puisse faire ça et je pense qu'il faut encore le célébrer et le redire. Alors le problème c'est qu'on
l'éprouver, est surtout
voilà,
le faire.
L'éprouver et le problème c'est qu'on est peut-être par rapport à avant on n'est pas tous devenus blogueurs. C'est peut-être ça aussi il y a eu des moments où on se disait tiens le futur c'est ça quoi en fait. Le futur, c'est qu'on sera tous un peu blogueurs. Finalement, bon, on est tous venus des usagers quand même plus ou moins passifs des réseaux sociaux, quoi.
Voilà, effectivement, la grande fermeture, enfin le gros problème, ça va être à partir de ce qu'on va appeler le web 2.0, ce qu'un marketeur va appeler le web 2.0 et les réseaux sociaux, on va y venir. Mais je rappelle que dans les années 90, quand le web se démocratise, à ce moment-là, les radios amateurs qui sont nos prédécesseurs sur l'idée de pouvoir émettre à l'autre bout du monde n'avait droit par la loi qu'à parler que de technique et de météo. Hein, je veux dire, faut quand même rappeler ça. C'était il n'y a pas si longtemps, jeune homme. Les textes de cette anthologie ont été sélectionnés selon deux approches. Lesquelles c'est écrit, hein, je peux t'aider, mais...
non, disons que...
Il y a deux approches.
Après, il y a des textes qui sont incontournables. Donc, bon, disons que j'étais un peu obligé. Mais qui sont... il y a des textes qui sont assez importants. Le texte de John Perry Barlow, donc la déclaration d'indépendance du cyberespace, qui est vraiment... le texte pionnier qui va beaucoup marquer l'histoire du web, puisque c'est un peu l'idée que l'Internet est un espace inappropriable par les gouvernements.
Alors c'est celui qui est juste après cette double page que j'ai montrée, que Nayan filme comme il sait faire avec dextérité. C'est aussi pour saluer le travail de maquette qui a été fait par l'éditeur B42. Alors effectivement, on peut peut-être commencer par la déclaration de cyberindépendance. On est en 96, en 1996. Il y a un dénommé John Perry Barlow qui est un ancien parolier de Grateful Dead. Alors déjà, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que ce mec vient des hippies. Bon, bref, admettons. En réalité, sa déclaration, et c'est très rigolo comment tu l'as retranscrit, parce que tu l'as retranscrit telle qu'elle était au départ, c'est-à-dire que c'était un email. Hein. En 96, sur le Internet, on peut faire des emails, un petit peu de web et des forums et des BBS, des Usenet, etc. Bon, voilà. Et lui, en fait, va envoyer un email qui va rester pour la postérité, la déclaration d'indépendance. Voilà. Que dit ce texte exactement ?
En gros, ça a vraiment beaucoup marqué les esprits, et c'est quand même un texte qui est encore important dans l'idée que le web serait un espèce d'espace alternatif. Et vraiment, l'idée centrale, c'est que c'est un espace inappropriable par les gouvernements. Et cette idée, en fait, elle est vraiment à double tranchante, parce que parfois elle pourrait être interprétée dans l'idée les gouvernements ne savent pas et ne doivent pas réguler. C'est quand même, à la base, c'est quand même vraiment ça qu'il disait. Hein. Il disait le web, l'Internet ne doit pas être régulé. Le problème de ça, c'est que si on y réfléchit, ça mène à une forme complètement insupportable de relation à la technique, puisque dans le monde dans lequel on est, avec des plateformes de réseaux sociaux à 1 milliard de personnes, c'est ingérable. Mais après, ce qu'il voulait dire aussi par là, c'est... de manière plus prosaïque, les gouvernements, en fait, n'arrivent pas à réguler. Donc ça, c'est aussi maintenant un problème, quoi. On peut se dire, comment on fait pour modérer des plateformes à 1 million de personnes ? Bon, c'est un gros problème. Donc, dans le fond, c'était vraiment l'idée... c'est un espace... et c'était vraiment une idée de scission générationnelle. Nous faisons partie de ce monde, sachant que le « nous », il était quand même pas très clair de c'était qui, ce « nous ». Et comme la critique, c'est quand même souvent, c'est un nous homme blanc, plus ou moins codeur quand même. On pourrait dire quand même ça dans un contexte qu'on rappelle aussi encore maintenant, c'est que il y a quand même énormément de gens qui n'ont pas l'expérience du web, en fait, ou très peu. Il y a une fracture numérique qui est énorme. Alors ça, j'en parle pas trop dans le livre, mais c'est quand même un truc qui est flagrant. Je veux dire, je crois qu'en France, le chiffre, c'est 15 millions de personnes qui ont des problèmes de fragilité numérique. Donc, en fait, il y a un truc où le web doit être pour tout le monde, mais en fait, il y a toujours des gens qui n'auront pas accès. Et le problème du texte, c'est cette idée de libre circulation de l'information complètement dérégulée. On voit bien qu'elle amène à une forme d'anarchie qui n'est pas non plus vraiment profitable. Et qu'est-ce qu'on fait de cette idée, en fait, qui a été beaucoup reprise, mais qui peut être... qui amène aussi à l'idée d'avoir des marchés complètement dérégulés, néolibéraux. Et c'est là où, en fait, le rêve antidémocratique hippie rejoint le rêve anarchiste de droite, quoi.
Alors, Lou, excuse-moi, le terme d'anarchiste de droite, il est prohibé ici. On n'a pas le droit de... Je ne sais pas ce que vous avez, il y a déjà eu un invité il y a quelques jours qui a parlé de ça. Là, je l'ai engueulé. Non, ça n'existe pas. Soit on est anarchiste, soit on est de droite. Mais on peut pas... ça va 2 minutes, les oxymores. Hein, ça va 2 minutes. Mais restons sur John Perry Barlow. Effectivement, il y a Supermanchman qui nous dit que c'est très états-unien comme vision de la liberté, et c'est ce que tu pointes d'entrée de jeu. Tu expliques, en fait, ce que tu viens de dire, que en fait il y a probablement un malentendu du côté de ce côté-ci de l'Atlantique sur la vision de la liberté qui va être prônée par John Perry Barlow et par d'autres. Et là, je voudrais t'entendre là-dessus.
Alors, en fait, je pense que la confusion, elle peut être si on regarde le côté, effectivement, du point de vue états-unien et plus européen, on va dire, d'une certaine manière, c'est que je pense que John Perry Barlow, il avait finalement une vision très individualiste de la liberté. Et je pense que c'est un gros problème, c'est même une contradiction du texte. C'est-à-dire comment à la fois on peut se dire on va avoir des réseaux qui vont où on va pouvoir individuellement construire des communautés d'intérêts partagés et tout ça, et comment on va construire des communautés quand même en même temps. Et ce truc, le texte est quand même, si on le relit maintenant, beaucoup, un plaidoyer quand même très individualiste. Donc ça, je pense qu'il y a une confusion là-dessus. Et après, il y a aussi peut-être une confusion qui est liée à cette idée de liberté de circulation de l'information, où c'est pas toujours très clair de quel côté on peut l'emmener. Mais bon, ça dépasse, je pense, le texte de John Perry Barlow.
Voilà, il y a aussi l'ambivalence du terme free, à la fois libre et gratuit. Et en fait, les deux ne sont pas tout à fait équivalents. En fait... on va aller dans d'autres manifestes, mais c'est important, me semble-t-il, de rester dans ton idée, qui est de dire ce qui aurait bâti le web du début, on va dire, puisque ce qui t'importe, c'est le web dans cette anthologie, en fait, a pavé la route des Peter Thiel et des Elon Musk de ce monde. Ce qui est très désagréable à lire, je ne te le cache pas, mais que veux-tu dire par là ?
En fait, c'est l'idée que... Si on est dans une forme de désenchantement et qu'on dit il faut revenir à l'âge des pionniers et il faut remettre en avant du coup un certain nombre de valeurs de l'internet qui peuvent être l'ouverture de l'information, la transparence, le partage et tout ça, le problème qui se pose, c'est qu'il y a de plus en plus d'études, y compris les miennes mais pas que, qui montrent qu'en fait ces valeurs, elles sont extrêmement ambiguës. Elles sont de plus en plus ambiguës. Donc si on prend l'exemple de la question de l'ouverture.
Oh, tu dis même qu'elles sont structurellement de droite, en fait.
Alors, potentiellement, en fait.
Donc, pour nous, c'est plus qu'ambigu. Hein. Je ne sais pas si tu sais où tu as foutu les pieds.
il y en a qui sont, par exemple, en ce moment, tout le discours autour de la souveraineté numérique, je pense qu'il y a un impensé sur le fait que. La souveraineté, si on revient à un truc très basique, c'est quand même toujours un peu la loi du plus fort, quoi. Donc c'est vraiment la construction des frontières et le maintien des frontières. Pour moi, effectivement, c'est quand même toujours un peu un truc quand même plutôt de droite, quoi. Mais après, il y a des valeurs qui ont été beaucoup portées par les mouvements sociaux, disons plutôt de gauche, progressistes, l'ouverture de l'accès au code source, l'ouverture des données, la réappropriation des outils et tout ça, qui en fait, au fur et à mesure, dans plein de domaines, sont révélées très problématiques. Donc, sur l'open source, c'est le fait que l'ouverture n'a pas empêché la captation de la valeur par les GAFAM, en fait. Ce qu'on vit en ce moment, par exemple, autour de l'IA générative, finalement, ça n'aurait pas été possible si le web avait été aussi ouvert. C'est-à-dire, pour entraîner ces données, pour entraîner ces IA, en fait, la base, c'est quand même le fait que ces sociétés ont aspiré le web, quoi. Une bonne partie. Parce que le web est ouvert ou parce qu'ils n'en ont rien à foutre du copyright.
Oui, parce qu'en fait, on apprend que toutes, une après les autres, ont pillé également les librairies, les livres, enfin, librairies, les bibliothèques, je veux dire, les livres, etc., où là, il y a une histoire de copyright. En tout cas, mettre un ouvrage à disposition de tous, ce n'est pas la même chose que de le mettre à disposition d'une entreprise qui va ensuite ressortir tout ça d'un coup, quoi.
Ouais. Et puis après, c'est aussi, je pense, lié à des idées peut-être plus philosophiques. Bon, après, ça nous emmène dans un autre terrain, mais en fait, j'avais travaillé un petit peu avec le philosophe Emmanuel Allois, qui lui a beaucoup travaillé sur la notion de transparence, donc l'idée qu'il y aurait une libre circulation de l'information et un rapport où le fait de voir l'information, ça serait presque comme déjà la connaître, quoi. Et lui, par exemple, il a relu donc lui fait un travail de philosophe que moi je ne sais pas faire. Donc il a relu par exemple tous les livres des Lumières et il s'est rendu compte que notre imaginaire politique autour de la transparence et de l'ouverture, il est beaucoup marqué par les Lumières en fait. Or en fait, il y a plein de considérations dans ces textes-là où c'était ils n'étaient pas forcément en faveur de la transparence, voire même ils en parlaient même pas. Donc voilà, quand Rousseau il parle de cette espèce d'idée que il faudrait être tout le temps ouvert et tout ça, et puis et que en fait il écrit des livres où il passe son temps à cacher des choses. Enfin, Il y a toujours une part d'ombre dans ces ambitions, dans ces valeurs, ce qui pose un problème si on veut les remettre en avant et au goût du jour, en fait.
Alors, j'ai oublié de te demander, avant d'entrer dans les autres manifestes, enfin j'en ai sélectionné quelques-uns, en fait, lequel a ta préférence ?
Je crois que celui qui est le plus intéressant, c'est L'aube des réseaux. Donc, c'est un texte de Geert Loving et Ned Rossiter. Qui en fait est vraiment qui donne plein d'idées pour construire des réseaux alternatifs. Donc, et ça, je pense, c'est là où il y a un potentiel assez fort de se dire bon, il y a plein de moyens technologiques, on peut créer des réseaux, que ça soit des radios libres, des médias indépendants, avec plus ou moins d'internet dedans et tout ça. Mais ça pose quand même plein de soucis. Alors, c'est pas facile de s'y prendre. Donc, c'est quoi les bonnes règles de gouvernance ? C'est quoi la bonne échelle ? On sait que en fait, ça fonctionne plus ces plateformes avec 1 milliard de personnes. Il faut revenir à des tailles plus petites. Comment on s'y prend ? Donc, ils ont un texte quand même plutôt lucide et assez pratique, en fait, sur...
Alors, je crois pas que tu aies donné le titre
du... Alors, c'est le texte de Geert Loving et Ned Rossiter.
Voilà, donc c'est La naissance des réseaux.
La naissance des réseaux.
C'est pas chaque 43, il date de 2018.
Alors, il date de 2018, mais ça, c'est la nouvelle version. La nouvelle version, c'est un texte qui date de 2005 à la base, donc qui est quand même relativement ancien, on va dire. Et voilà, donc c'est vraiment celui-là que je trouve qu'il y a le plus de potentiel. Après, c'est pas celui, par exemple, où il y a le plus de... Les textes les plus marrants sont quand même plutôt les textes cyberféministes, où il y a un côté plus poétique. Mais en termes de celui qui a le plus de potentiel d'avoir une réception et de servir, en fait, de servir la pratique, je pense que c'est vraiment celui-là.
Et alors, qu'est-ce qu'il défend, celui-ci ?
Bah, il défend l'idée de... il y a un monde avant et après les réseaux sociaux. Et ça, c'est important de le dire dans le contexte où ces personnes, surtout Geert Loving, en fait, viennent du monde autonomiste et des réseaux entre art et activisme des années 80. Donc, c'est les radios libres, l'agitprop, les happenings, avec quand même déjà des technologies dedans. Et ils ont quand même poursuivi cette veine en construisant toute une communauté autour d'eux qui arrive à être à la frontière entre art, recherche et activisme. Donc c'est quand même un des endroits rares où ça se passe et qui est un peu un lieu concentrique où se rejoignent les communautés féministes qui créent des serveurs alternatifs, les gens qui font de la vidéo art et qui en ont marre de mettre leur vidéo art dans des galeries où personne ne les voit, donc qui font ça sur le web, les communautés un peu permacomputing, bon, plein d'autres.
Alors, c'est de là, notamment, parle des médias tactiques, à un moment donné. Alors, pour plutôt expliquer qu'ils sont... ils sont finis. Hein. Après une décennie de médias tactiques, écrivent-ils, tu vois, je l'avais noté, page 59, le moment est venu d'intensifier des activités pratiques, médiatiques, radicales. Voilà qui m'intéresse, voilà qui intéresse les oppositions, les oppositions. Qu'entendent-ils par activité pratique médiatique radicale ?
Bah, je pense qu'il y a en partie des choses que j'ai commencé à évoquer, c'est cette idée des médias tactiques. Il y a l'idée de construire des sortes de brèches un peu assez expérimentales dans le paysage médiatique. Je pense que ça se reproduit dans plein de choses qui maintenant en fait sont requalifiées comme médias tactiques. Donc il y a à peu près une tradition d'une vingtaine d'années de serveurs féministes, donc des groupes de femmes qui se rejoignent, qui disent « Nous, en fait, on veut réapprendre à se servir de ces technologies, on veut réhéberger nos données. Comment ça fonctionne un serveur ? Est-ce qu'on peut héberger notre serveur ? Comment on le fait ?» Et il y a une histoire à écrire là-dessus qui n'est pas encore vraiment écrite. Ça se passe un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est des médias tactiques. Il y a ce genre de choses. Il y a, comme j'ai dit, des communautés un peu arty, vidéo art qui font ça. Il y a plein de radio pirates. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont en fait éparses. Et c'est OK, c'est le principe des médias tactiques. On n'est pas là pour... En fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas là pour recréer des institutions d'une certaine manière. Donc c'est un peu la limite aussi, c'est-à-dire c'est de se dire, en fait, ils acceptent d'être dans une position de ne pas monter en échelle, de ne pas de monter en généralité. Donc c'est un peu un contraire de l'entrepreneuriat qui consiste à en fait, créer sa start-up et créer un monopole derrière, quoi.
Et c'est pour ça que je suis heureux que tu parles de ça, parce que tout à l'heure, je disais, alors évidemment, de manière extrêmement modeste, il y a quelque chose d'opposte là-dedans, puisque notre but n'est pas de croître. Et même, on est par rapport à plein de médias indépendants, on est plutôt en rupture par rapport à ça. On avait, il y a un an et demi, gonflé un peu la voilure, et en fait, on l'a un peu réduite, précisément pour rester dans cette forme d'agilité. Et là, je découvre page 65, la richesse du squad, et j'avoue que j'ai adoré ce manifeste. Est-ce que tu peux nous dire de qui il s'agit, et là aussi, quel est le propos de ces gens-là?
Ouais, alors c'est assez intéressant. C'est un des textes les plus récents, je pense,
2020, ouais.
Qui vient vraiment de la période de la pandémie. Ce moment qu'on a tous adoré, où on a dû faire face au mème de notre oncle sur des boucles WhatsApp. non, mais en gros, c'est l'idée que on va revenir. Enfin, c'est le moment de la pandémie où on revient à des formes, des fois, de réseaux beaucoup plus petits, où ça va se passer sur WhatsApp, sur Signal, ou bon, pour les plus geeks, sur Mastodonte et tout ça. Donc, l'idée du squat,
c'est Discord.
Ou Discord, de revenir à une échelle un peu plus petite. Plus entre personnes qui se connaissent un peu déjà. Donc c'est une évolution qui est assez symptomatique du web, c'est-à-dire dans le contexte où les réseaux sociaux grand public sont devenus infréquentables, il y a plein de gens qui se replient sur des échelles de réseaux un peu plus petits, qui sont déjà des fois un reflet de relations amicales ou professionnelles et tout ça. Et vraiment, dans ce texte, il théorise un peu cette idée du squad, alors bon, qui est un peu une métaphore militaire, puis c'est l'idée d'un escadron, donc c'est pas forcément la meilleure métaphore, mais en tout cas...
Le terme squad, écris-tu, peut se traduire de plusieurs façons, soit par section, escouade, brigade, dans un contexte militaire, soit par bande ou clique, dans le contexte d'un groupe d'amis.
Ouais, voilà, le côté clique est peut-être un peu plus... puisqu'il y a un côté entre-soi, lore un peu, création de mythes un peu du moment. Et je pense que c'est assez intéressant parce que ça nous pose des vraies questions sur notre rapport quotidien intime au réseau, c'est-à-dire est-ce qu'on est satisfait de ces petites communautés? Est-ce qu'on perd pas quelque chose de l'expérience du web un peu grand public où en fait, il y avait quand même ce truc un petit peu, bon, qui existe encore, mais un peu fou de pouvoir parler un peu à une sorte de masse, ou aussi, le gros problème, je pense, de ces petites communautés, c'est que, bah, en fait, on rencontre pas grand monde, quoi. Et il y avait quand même une promesse du web de se dire, ah ouais, je peux parler à des gens hyper loin ou hyper différents. Et ça, moi, je l'ai vécu sur certains aspects. Et je pense qu'il y a plein de gens qui maintiennent ce désir du web parce qu'il y avait aussi cette idée de pouvoir traverser les frontières, les milieux sociaux. Bon, à la petite échelle, ça va moins marcher quand même.
Mais l'idée des auteurs, qui s'appelle The Other Internet, c'est quoi? C'est de dire on refuse les gros réseaux. Et on revient à quelque chose de plus... Je dis on revient parce qu'au départ, il n'y avait pas forcément non plus des millions de gens, loin de là. On revient à quelque chose de plus réduit, de plus artisanal, de plus affinitaire.
Ouais, de plus affinitaire. Alors après, ils sont pas dans une... ils ont pas trop une vision de retour parce qu'ils parlent bien quand même d'outils qui sont plutôt récents. Discord ou d'autres outils qui sont quand même qui n'étaient pas là au début, quoi. Donc ils sont pas dans un truc de retour. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils montrent aussi que peut-être un des avenirs de notre relation au web, il va être vachement plus fragmentaire, il va être vachement plus parcellaire. Et pour sortir en fait d'un monde où il y a 5 ou 10 entreprises qui en fait monopolisent tous nos usages. Ben voilà, on va être dans un truc très avec plein d'outils différents et c'est potentiellement ça l'avenir, quoi.
Alors ils ont un petit diagramme graphique. Ah oui, non. Alors vous le voyez, il est là. Mais je vais vous le lire et Louis, tu vas toi nous dire. Ou sinon, on va le faire comme ça, voilà. Louis, tu le connais par cœur, ce graphique,
c'est
j'imagine.
Page combien?
Alors, c'est page 71. Voilà, monsieur est venu avec son ouvrage, très bien. Et comme ça, nous allons pouvoir faire un plan serré, voilà. À l'aube des réseaux organisés. Alors, tout en haut, abscisse ordonnée, je ne sais jamais, je ne me souviens plus comment c'était. Mais enfin bon, en haut, travail pour soi. En bas, travail pour les autres. À gauche, valorisation de l'individualisme. À droite, valorisation de la communauté. Et donc, les squads sont ici, donc vers quelque chose qui va vers le partage, vers le travail pour les autres plutôt que... Enfin, en tout cas, à l'inverse, de esclaves du salaire et des néolibéraux. Donc, c'est quelque chose qui explique qu'on tend vers un monde... partagé, un monde équitable. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre la richesse du squad ?
Bah, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Après, et en même temps, c'est quand même aussi un peu naïf, dans le sens où on sait bien que même dans ces communautés de petite taille, y a quand même des formes de hiérarchie qui se recréent, quoi.
Tiens, je fais un petit plan juste pour Nayan. Ça, je suis sûr que ça lui fait plaisir.
Voilà. Mais oui, après l'idée, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, après, chaque tout diagramme est un peu limité, hein. Mais je pense que c'est pour contrer aussi l'extrême individualisme du profil, quoi. Le fait que sur les réseaux sociaux grand public, on est un peu condamné par l'image qu'on doit donner, l'extrême visibilité qu'on doit avoir, et aussi le fait qu'on est censé... Enfin, que derrière, il y a la machinerie de la surveillance qui fait qu'on est censé ressembler à nos données, quoi. Donc, je pense qu'il y a un peu ça, il y a un peu ça là-dedans, ouais.
Alors, page 75, là, j'ai été très étonné et je n'ai pas bien compris. C'est le chapitre 2. Donc, c'est le moment de la mort d'Internet, Web 2.0 et naissance des plateformes. Mais toi, tu dis... l'épiphanie créatrice. Alors là, j'ai pas pigé. Explique-moi, explique-nous pourquoi, pour toi, au moment où arrive le Web 2.0, c'est-à-dire quand même la prédominance de grands trusts, on va dire Facebook incarnant le Web 2.0 magistralement, donc au milieu des années 2000. Pour toi, c'est quand même l'épiphanie créatrice.
C'est parce qu'en fait, c'est le moment plutôt de la massification des usages, donc l'accès massif en écriture, lecture, création. Donc, c'est un peu la période... des amateurs, et donc c'est pour ça que c'est épiphanie, dans le sens où le web arrive à un niveau de maturité et une massification des usages, dans le sens où ok, il y a une épiphanie avant, mais c'était quand même un peu une épiphanie de geek plus ou moins lettré, quoi. Et donc je pense que c'est un peu ça. Après, je suis d'accord que ça vient avec le fait que le web est un peu resserré dans un monde capitaliste, ça c'est sûr. Mais ça on l'apprendra un peu plus après. Sur le moment, en fait, je pense que ça, on le voit pas très bien, quoi. Parce qu'on connaît moins les modèles économiques de la captation des données, à quoi vraiment ça va servir. On connaît moins, en fait, tout ça.
Ah, on verra que certains avaient annoncé ça bien avant la naissance des plateformes. Et en tout état de cause, il y a en 2012 un Polonais, peux-tu nous parler de Piotr Skierski, publier un manifeste « Nous sommes les enfants du web » avec une phrase que j'ai trouvée très belle, et je te la renvoie parce que je pense que tu aurais pu l'écrire. « Nous avons grandi avec Internet et sur Internet. Voilà ce qui nous rend différents. »
Non, mais c'est encore très vrai. Après, c'est très vrai. Et moi, j'ai aussi fait partie de cette génération-là. Mais en même temps, je ne sais pas forcément toujours quelle conclusion tirer de cette phrase, quoi. Mais en tout cas, je pense que ça nous rend différents. Est-ce qu'on sait toujours pourquoi, comment En tout cas, ça continue de créer plein de discussions dans les familles. Il y a quand même toujours un truc de « mais vous comprenez pas, en fait, je l'ai vu sur Internet ». Ça, je pense que c'est quand même encore assez vrai, quoi. Et il y a peut-être un côté, effectivement, innocent un peu l'idée que le web, c'est quand même aussi un truc de teen à la base. Enfin, il y a un peu ce côté adolescent que j'aime bien dans ce texte, pour aussi contrecarrer le moment qui est quand même un peu déprimant qu'on vit en ce moment, où le désenchantement fait qu'on a du mal à retrouver de la joie quand même.
Ce qui me semble apparaître, mais dis-moi si je me trompe, c'est que peu à peu, les artistes vont être moins féconds, vont moins produire de textes au profit d'autres catégories de personnes. Est-ce que je me trompe par rapport à ça ?
Tu veux dire, les artistes vont moins créer de textes sur Internet au détriment de d'autres formats ?
Oui.
Tu veux dire les artistes numériques
Oui, voilà. Oui, oui.
Alors ça, je sais pas. J'avoue que je me rends pas compte. Tu veux dire que les artistes numériques se seraient détournés ? Bah, c'est vrai que l'idée du web art est quand même un truc qui a peut-être pas percé. J'avoue que je me rends pas compte.
Je te dis ça parce que alors j'ai adoré le titre. Alors là, c'est un manifeste qui date de 1987, donc il est antérieur à l'arrivée du web. On verra qu'il y a un texte encore plus ancien, c'est celui-là, rien que pour le titre, Manifeste pour des médias instables. Alors ça, je trouve ça magnifique, je trouve ça mieux que de dire médias indépendants, tatati, tatater. Non, nous sommes des médias instables. J'adore ça. Et donc là, c'est pour ça que je te parle de ça, parce que c'est un collectif d'artistes hollandais, me semble-t-il, qui propose ça. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par les médias instables ?
Bah, en fait, non, mais c'est drôle que tu dis ça, parce que cet après-midi, du coup, j'ai eu une autre présentation sur le livre, et il y avait un intervenant qui disait, mais
sur
en fait,
CNews
oui, bah, c'est en live aussi, qui disait que on ne parle plus de médias alternatifs. Il disait, on dit de moins en moins ça. Mais je suis assez d'accord que le côté médias instables, ça serait presque à revendiquer, comme tu disais, dans l'idée que peut-être il ne faut pas forcément croître, qu'il y a en fait des choses à construire dans ces marges et aussi dans une forme de précarité qui est une forme d'économie de moyens qui suffit, quoi, sans IA générative, par exemple.
Oui.
Ce que j'aime bien, donc, c'est un texte qui vient des Pays-Bas, là où en fait, où il y avait un vivier, et il y a encore un vivier très fort, de ces médias tactiques, donc qui vont vachement prendre ces métaphores d'instabilité, de glitch, de déstabilisation, bon, qui ont des histoires différentes, que ce soit dans l'histoire de l'art, que ce soit avec des choses liées au happening, à l'agite propre, mais aussi dans le code, avec l'idée que c'est en détournant les protocoles, en détournant les manières d'organiser l'information, qu'on va construire des choses différentes. Donc, après, c'est un truc béaba pour les artistes, c'est-à-dire ils passent leur temps à prendre des médiums et à les triturer, et à les détruire, et à les reconstruire. De revendiquer ça et toute cette métaphore du hack, elle a été aussi vachement prise dans ce sens et elle est encore féconde, quoi.
Alors justement, à propos de hack, je vois que le chat s'emballe. Dans le mouvement hack, à la base du web, il y a une dimension punk, en effet, parce que voilà, il y a des gens qui trouvent que tout ça est un petit peu punk et ils n'ont pas tort. D'autres nous disent que le web 2.0 coïncide aussi avec les caméras numériques accessibles. Il y a tout un tas de partages d'expériences qui sont données sur le chat. Et justement, on arrive, pour moi, un des textes les plus forts, je pensais que c'est celui-ci que tu allais donner, il date de 1986, mais alors lui, il a vraiment franchi les frontières, c'est The Mentor, qui est un hacker, justement, La conscience d'un hacker, qui est un texte absolument magnifique, qui est très, très court, qui fait deux pages, alors certains sont très, très bavards, d'autres moins, c'est quelqu'un qui a été arrêté, et qui écrit ce manifeste du hacker qui va quand même durablement créer la culture du hacking, en tout cas.
Ouais, donc on retrouve plein de trucs qui sont cette idée de dire que en fait il y a quand même tout un monde qui ne nous reconnaît pas. En fait, c'est drôle parce que dans le texte il parle pas même, par exemple, de l'école. Et c'est des trucs aussi qui en fait rejoignent d'autres
la détestation de l'école, hein,
ouais, c'est ça. La détestation de l'école, le fait qu'on vit dans une société avec des institutions disciplinaires et que du coup un échappatoire, et ça c'est vraiment une promesse du web, c'est quand même c'est l'ordinateur et le web, quoi, et donc ça vaut pour les ça vaut pour les hackers qui vont faire des exploits. Et c'est quand même toujours très vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés pour du hacking, sont quand même encore des adolescents. Peut-être parce que c'est le moment où t'es foufou, mais il y a aussi le côté virtuose qui se fait dans ces moments-là. Et il y a aussi toutes les bases d'un peu une sorte d'idéologie hacker qui est quand même aussi très méritocratique. Donc ça, c'est peut-être des trucs qui sont des fois à critiquer, puisque il y a cette idée de maîtrise technique. Donc tout le monde ne devient pas hacker comme ça. Donc ça, c'est la limite dans une communauté très masculine aussi. Mais ouais, donc il y a un peu tout ça qui est intéressant. Voilà, je sais pas si, si je voulais dire autre chose là-dessus, mais...
Page 109, c'est la fin de ce manifeste. Oui, dit The Mentor. Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité. Mon crime est celui de juger les gens selon ce qu'ils pensent et disent, pas selon leur apparence. Mon crime est d'être plus malin que vous. Quelque chose que vous ne me pardonnerez jamais. Je suis un hacker, ceci est mon manifeste. Vous pouvez arrêter un individu, mais vous ne pouvez pas tous nous arrêter. Après tout, nous sommes tous les mêmes. Alors là, évidemment, on dirait Anonymous, quoi. C'est les 30 ans avant.
Ouais, complètement. De toute façon, il y a cette idée de très irrévérencieuse et tout ça. Après, ce que je trouve intéressant dans la théorisation un peu de ce genre de phénomène, c'est l'idée que, et ça vient plus avec le texte d'après de Mackenzie Wark, qui lui va reprendre, c'est une personne qui a fait une transition, qui va reprendre vraiment cette idée du hack comme comme la manipulation des protocoles. Et ça, c'est un truc assez intéressant à comprendre. C'est vraiment cette idée que c'est en détournant la manière dont on structure l'information qu'on va trouver des brèches et d'autres manières de vivre les réseaux, en fait. Et ça, c'est assez intéressant et important dans un contexte où, en fait, on connaît pas très bien et il n'y a pas suffisamment de gens, à mon sens, qui travaillent sur les enjeux vraiment d'infrastructure. Puisque voilà, l'invention, c'est quand même à la base des inventions de protocoles de gestion de l'information, de langage de programmation, de réseau, c'est du matériel. Bien sûr, il y a le côté code, mais et ça, en fait, on a du mal à le politiser. Et même, tu vois, typiquement, il n'y a pas de manifeste sur les enjeux d'infrastructure. Ou à peine, il y a les serveurs féministes, mais il n'y a pas... Pour théoriser ça, c'est aussi de montrer qu'il y a des enjeux cachés qu'on ne connaît pas très bien. Donc, avec l'arrivée des plateformes, un des gros enjeux, c'est par exemple la question des API. Donc ça, pour les gens qui ne connaissent pas, les API, c'est Application Programming Interface. Donc c'est un protocole, c'est une sorte de porte d'entrée pour diffuser des données. Donc je suis développeur je veux récupérer des données liées à Facebook. Je vais faire des requêtes auprès de Facebook et Facebook va me donner certaines choses. Et donc, par exemple, Facebook a créé toute une écologie de développeurs à partir de ça. Et c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire, nous, en tant qu'usagers, on interagit sur ces plateformes. Ces plateformes, elles récupèrent nos données. Et ensuite, ces données, elles passent par où ? Elles passent par un protocole qui est cette API, cette porte d'entrée, quoi. Et ensuite, c'est ça qui nourrit le marketing prédictif et tout ça. Donc, le nerf de la guerre à politiser, c'est l'API, c'est l'infrastructure. Et pour la détourner, il faut la hacker. Donc, voilà. Et ça, ces mécanismes-là, en fait, ils sont pas hyper faciles à expliquer. Y a pas suffisamment de gens qui travaillent dessus. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant de revenir sur ces enjeux de hacking. Au-delà du côté flamboyant, en fait. Je préfère parler de trucs très froids qui sont, en fait, comment ça fonctionne.
Et alors, le hacking, on va le retrouver beaucoup dans le chapitre 4, dont j'ai l'impression que tu as eu du plaisir particulier à le faire, la généalogie cyberféministe. C'est un des chapitres, me semble-t-il, les plus copieux. Et où la question du hacking est absolument centrale, où en gros, il faut hacker les genres comme il faut hacker les machines. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents manifestes ? Alors, il y en a un de 500 pages qui n'est pas dans ton livre, voilà. Il y en a qui sont longs de 2 pages. Il y a donc une farandole de manifestes cyberféministes. Qu'est-ce que tu en retiens ?
Bah, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est déjà... ce qu'il y a à retenir du cyberféminisme, c'est qu'il y a une tradition de création de communautés alternatives autour beaucoup de ces serveurs féministes. Ça a commencé à la fois en Australie, à la fois au Canada, dans les années 90. Je pense qu'il faut s'intéresser à ces communautés parce que c'est des exemples où bien avant plein d'autres personnes, il y a ces groupes de femmes qui se disent en fait on va se réapproprier les moyens de création. Ensuite, il y a des manifestes qui sont très disparates. Ce qui était intéressant avec le cyberféminisme, c'est que globalement, c'est un mouvement qui n'est pas très sorti des écoles d'art et de design. Donc il est connu parce que c'était plutôt un mouvement artistique, de happening, qui a eu aussi toute une histoire de un peu plus théorique avec la création de listes de diffusion. Mais je pense qu'il y a plein de choses différentes. Il y a l'idée, bien sûr, aussi d'aller au-delà des binarismes. Ça, c'est le côté, effectivement, hacker le genre. Donc ça vient beaucoup dans le texte de Legacy Russell qui s'appelle « Survivance du glitch ». C'est tiré d'un livre qui s'appelle Glitch Feminism, publié chez Verso en anglais, qui travaille pas mal cette idée du hacking des genres, qui a aussi ses limites parce qu'à un moment les métaphores, on peut pas les faire sonner dans tous les sens et tout ça, mais ça c'est quand même encore très fort. Après il y a d'autres enjeux qui sont, en gros pour moi les féministes sont comme toujours les meilleurs matérialistes, donc en fait, pour penser la relation entre corps, technologie, expérience, on a besoin en fait de ces textes-là. Et exactement pour faire face à John Perry Barlow, qui avait une vision très cérébrale en fait de l'information. Et je pense qu'il y a vraiment toujours des dichotomies comme ça entre corps et esprit. Et on voit bien que l'IA, par exemple, il y a un truc, l'IA n'est pas présente là aussi parce que c'est des gens qui sont fous de l'étude du cerveau. L'IA, elle est basée sur des mécanismes du cerveau. Alors que le web, c'est aussi être devant son ordi, naviguer, et ça, c'est le corps, quoi.
Alors, je ne sais plus quel est le texte, quel est le manifeste, mais il y en a un qui m'a bien marqué. Je pense que c'est un des manifestes cyberféministes, et je rebondis parce que tu as employé le terme corps, qui nous explique qu'en fait, il faut se réapproprier le corps parce que, grosso modo, dis-moi si je m'égare, grosso modo, le web nous a fait oublier nos corps. Hein, c'est-à-dire qu'on voyage de manière immobile, le corps a été perdu, et donc là, les féministes nous alertent en disant non, attention, il y a des enjeux autour des corps qu'il faut absolument prendre à bras le corps, si je puis le dire.
Effectivement, je pense qu'il y a, à la fois, il y a plusieurs versants. Il y a le côté.
Oui, les deux corps, le corps et le corps.
il y a le fait que via le web, le corps a été énormément médiatisé, quoi. On a d'une certaine manière, les corps n'ont jamais été aussi visibles. Après, ça pose la question quel corps, quoi. Et puis il y a aussi ramener la question de l'expérience du web comme une expérience corporelle. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qui sont peut-être un peu étudiées par plutôt la sociologie des usages. Donc c'est les gens qui restent avec les gens qui regardent, qui utilisent le web et qui regardent comment on le regarde, dans quelles conditions, est-ce que c'est dans sa cuisine, à quel moment, dans les transports. Et ça, en fait, ça c'est plein de postures corporelles qui orientent les usages, qui structurent en fait plein de rapports à l'attention. Je pense que même la focalisation sur l'attention, je pense qu'elle est encore trop cérébrale, quoi.
Alors, parmi les textes qui vont irriguer la généalogie cyberféministe, il y a un manifeste de Donna Haraway, qu'on cite souvent au poste, qui se réapproprie la figure du cyborg, un être hybride à la frontière entre l'humain et la technique, voire entre les espèces, pour enjoindre les féministes à abandonner les catégories traditionnelles de genre, de technologie et de la politique moderne. Je veux dire, c'est super profond comme affaire, quoi.
Alors ça, du coup, c'est antérieur, c'est une des inspirations de la généalogie cyberféministe. C'est un texte, vraiment pionnier de l'étude des sciences et de l'histoire des sciences, de la philosophie des sciences et tout ça. Je pense que ce qui est assez important et qui reste, qui vient de ce texte et qui reste dans le cyberféminisme, c'est que l'idée, c'est quand même en partie d'abolir les frontières, quoi. les frontières de genre et aussi une réflexion sur notre animalité, puisque Donna Haraway elle a écrit plein de textes aussi pour montrer en fait comment finalement on n'est pas si loin de certaines fois de certains animaux, donc là il y a là aussi la frontière des espèces et tout ça, donc ça je pense c'est encore des réserves hyper fortes, mais c'est vrai que c'est je pense une des inspirations qui est encore hyper importante, et bon elle est quand même bien elle est bien connue, elle est bien traduite en France, et d'ailleurs en ce moment si j'ai bien compris il y a une nouvelle traduction qui est en train d'être faite par des groupes féministes de Donna Haraway, de son manifeste Cyborg, donc ce qui veut dire que voilà que ça continue de nourrir ces communautés quoi.
Alors, tu as dit tout à l'heure que il y avait singulièrement de l'humour dans les manifestes cyberféministes. Il y en a un dont le titre moi m'a fait bien marrer, le manifeste de la bitch mutante. voilà. Et pourquoi, selon toi, il y a plus d'humour là que dans les autres ? Est-ce que les gars se prennent un peu au sérieux ?
Alors,
il y a des trucs un peu sentencieux parfois.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a les gars se prennent au sérieux. Il y a aussi, je pense que c'est les manifestes les plus arty. Les plus et aussi qui sont assez importants dans l'idée d'avoir un rapport littéraire et poétique à la chose quoi, et voilà, donc ça c'est assez intéressant de voir que ça vient plus des féministes, au moins enfin en tout cas en ce qui concerne les manifestes. Après c'est aussi à double tranchant dans le sens où par exemple le rapport littéraire que cette communauté a avec le langage de la cybernétique est pas évident. Et c'est pas toujours facile de comprendre si c'est un rapport de célébration de ce langage, de la circulation de l'information et du contrôle, puisque donc la cybernétique c'est une science de l'après-guerre qui est une science du contrôle et qui quand même à la base a été là pour calculer les missiles balistiques de guerre quoi. Donc c'est quand même pas très drôle comme histoire d'où ça vient. Et donc le rapport littéraire à cette idée de circulation de l'information, de feedback et tout ça. Et en fait ce que ça montre c'est que et ça c'est aussi un apport des cyberféministes, c'est qu'en fait on a un rapport très ambigu à ces technologies et tous les manifestes sont quand même on peut dire comme tout quand même très pro-technologie, dans un monde où en ce moment on se dit peut-être il en faudrait un peu moins, y compris pour des raisons environnementales, peut-être qu'en fait il faudrait moins de technologie, donc moins de web en fait. Mais il n'y a aucun manifeste qui dit ça par exemple.
Parce qu'à l'époque, il y a cette idée que justement, c'est quelque chose qui va dépolluer, qui va permettre d'éviter le transport de plein de choses, etc. Bon, là-dessus, grave erreur. On arrive vers la fin, on arrive vers ce chapitre-là, vers une souveraineté technologique. Alors, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as parlé des frontières. Tu en parles dans le texte de présentation, parce que chaque chapitre, évidemment, est introduit par un texte de ta plume. Et en fait, je me faisais la réflexion tout à l'heure en t'écoutant, puisque le terme frontière revient souvent. John Perry Barlow, dont on a parlé au tout début, c'est pas pour rien qu'il va lancer une association électronique
Frontier Foundation.
Mais l'idée même de frontière est quelque chose de très nord-américain, hein, de repousser la frontière, etc., etc., au prix d'un génocide, hein, mais voilà, mais on repousse la frontière, on va toujours plus à l'ouest, etc. Et est-ce que là, il n'y a pas, par exemple, un malentendu qui peut y avoir avec l'Europe s'est fait la guerre pour des histoires de frontières, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, tu reviens sur la souveraineté, hein, tu la dates. J'aimerais bien que tu nous dises de quand, parce que moi, j'ai appris ça, je trouvais ça fascinant. Mais voilà, est-ce qu'on ne doit pas faire gaffe dans tous ces textes qui sont quand même... pour la plupart anglo-saxons, bercés par cette idée de frontière.
Si, alors ça, c'est vraiment un truc assez fondateur de la culture numérique, comme tu dis, qui est très nord-américain. Donc, l'imaginaire, c'est l'imaginaire, en fait, colonialiste de l'expansion géographique, qui, faut vous le rappeler quand même, la Silicon Valley, la vallée du Silicon, c'est parce que, pendant longtemps, y avait des usines de semi-conducteurs, donc de puces, et donc qui sont faits en partie avec du silicone. Donc ça, c'est des choses qu'on oublie un peu. Et ensuite, au tournée des années 80, cette production-là a été amenée en Asie, mais au prix quand même à la fois d'enjeux environnementaux hyper forts. Donc il y a une origine colonialiste en fait de l'expansion technologique et qui est en partie aussi reproduit dans le web, puisque ces communautés de hippies qui ont imaginé l'expansion du web, en fait c'était aussi les mêmes qui projetaient en fait les voyages intergalactiques et la colonisation de la Lune ou de Mars, quoi. Donc donc l'imaginaire, il vient de là, donc il n'est pas très drôle. Et c'est vrai qu'en ce moment il y a tout un discours autour de il faudrait qu'on retrouve une souveraineté technologique. Alors c'est pas toujours très clair ce que ça veut dire, mais disons que dans le langage courant, c'est plutôt pour des enjeux géopolitiques, géostratégiques, de dire en fait il faut qu'on maîtrise nos données dans le contexte du règlement européen, où il faut que les données des Européens restent en Europe, dans le contexte de surveillance, ce qui fait que avec le Cloud Act américain, la FBI, les services de renseignement américains peuvent avoir accès à nos données des Français, des Européens, à partir du moment où elles sont chez des entreprises américaines. Donc ça, c'est le débat légal, c'est un conflit légal entre RGPD en Europe et le Cloud Act américain. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça. Et donc ça, j'en parle parce que je suis un peu obligé. Et en fait, dans cette histoire-là, qui occupe le débat médiatico-politique, il y a quand même un autre sens de souveraineté qu'on a un peu oublié. C'est plutôt l'idée d'une souveraineté plus individuelle, qui est en sorte de désir d'autonomie du sujet. Donc c'est un sens plus philosophique d'autonomie. Et donc ça, dans le contexte du web, ça passe par la réappropriation des moyens de création de l'information. C'est pour ça qu'il y a plusieurs manifestes qui sont là-dessus. Donc le manifeste GNU de Richard Stallman, c'est quand même intéressant parce que c'est Richard Stallman, c'est un
donc
gars.
Là, il faut dire qui il est et quel est son manifeste.
À la base, c'est un gars, il en avait marre de ne pas pouvoir réparer son imprimante. Donc les imprimantes ont toujours été des trucs insupportables, ça n'a pas changé. Donc il s'est dit, je vais construire un système un petit peu technico-légal pour faire en sorte qu'on puisse bidouiller, réparer. Et donc ça a donné en partie le mouvement open source, quoi. Après, il y a d'autres manifestes qui sont un peu dans le même sens de retrouver des moyens pour arriver à avoir un contrôle et une sorte de maîtrise de l'accès à l'information. Donc Aaron Schwartz, aussi un personnage hyper important, donc c'est peut-être un des militants des libertés civiles en ligne le plus connu, qui a aussi une fin tragique. Puisque...
Alors, Aaron Schwartz, on lui doit beaucoup de programmes. On lui doit, parce que c'était un génie à part entière, on lui doit énormément de choses. Lui, il est très influencé, justement, par John Perry Barlow. Et en fait, il va, en 2013, se suicider. C'est un martyr. Il va devenir un martyr de la cause du libre, on va dire. Et effectivement, il parcourt ton ouvrage ici ou là. Rappelle-nous son manifeste, enfin ses faits d'armes.
Ouais, en fait, alors les faits d'armes, il y en a plusieurs. Il y a sur les aspects techniques, c'est une des personnes qui a contribué à la création des flux RSS. Alors ça, c'est pareil, je pense que les gens ne savent pas forcément. Donc les flux RSS, c'est une sorte de protocole de diffusion de données. Et pendant un moment, c'était quand même quelque chose d'incroyable. On pouvait s'abonner à plein de sites web et recevoir dans un lecteur de flux RSS l'intégralité de ces informations. On pouvait trier et tout ça.
Eh bien, figurez-vous que, logiquement, depuis hier soir, nous avons remis en avant le fil RSS. Il faut vérifier sur opost.media, c'est tout en bas, à gauche, parce que moi, tu sais que j'ai encore plein de fils RSS. Je prépare la matinale du lundi avec les fils RSS. J'ai un lecteur qui me permet d'aller chercher des informations, etc. On doit à Aaron Schwartz...
La contribution au fil RSS. Entre autres choses, il a participé aussi à la création des licences Creative Commons, donc qui ont donné des moyens aux créateurs de pouvoir dire je veux que ma création soit utilisée, oui ou non, d'une certaine manière, et tout ça. Il a participé à Reddit aussi, réseau social qui pas très utilisé en France, mais quand même encore hyper, hyper important. Et c'est devenu un des militants de la défense de l'ouverture de l'accès à l'information les plus en vue. Effectivement, c'était aussi un petit génie de l'informatique au MIT. Et donc, c'est un manifeste pour une guérilla en faveur du libre accès. Donc, lui, voilà, il avait une vision guerrière du truc, puisqu'il a, donc malheureusement, il s'est suicidé en partie, puisqu'il avait téléchargé énormément de publications académiques. Via l'accès à la librairie les bibliothèques du MIT et qui les a mis librement en ligne et il s'est fait donc accuser voilà et par ailleurs c'était aussi quelqu'un qui avait voilà qui était dans une dépression au-delà de voilà. Qui était causé par ça mais je veux dire au-delà de ça
mais on peut dire que d'une certaine manière il va quand même payer de sa personne donc en fait il subit une procédure du FBI pour vol de données on parlait tout à l'heure des géants de l'IA qui ont pillé bien plus que lui. Et alors, dans ce chapitre, arrive ça. Alors ça, je suis heureux. Le manifeste du web indépendant, 1997. Qu'en sais-tu de ce manifeste ?
Alors moi, je sais que j'avais 6 ans.
Oh merde !
Et je sais que tu y es quand même un peu pour quelque chose. Entre autres personnes, mais du coup, moi, j'aimerais bien apprendre l'histoire. Là, c'est le moment où on fait l'intervieweur interviewé pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour toi.
Alors, c'est l'émanation, ce manifeste du web indépendant qui existe toujours, qui est toujours en ligne dans un site qui s'appelait Usine avec un Z, le manifeste du web indépendant. L'usine qui était en fait une sorte de blog avant l'heure d'un certain nombre de webmestres, comme ça qu'on s'appelait, de gens qui s'étaient réunis dedans. Alors, tu parles de journalistes, il y a quelques-uns qui sont journalistes ou qui vont le devenir, mais ça n'est pas forcément la majorité. Mais ce sont des gens qui sont là au tout début du web, dont un dénommé David Machin, qui a un site qui s'appelle La Rafale, qui n'existe plus. Et Usine va donner naissance à un CMS avant l'heure, un outil de publication en ligne qui s'appelle toujours SPIP, qui est toujours en activité. Et donc là, on est en 97, et je ne sais pas pourquoi on était très pessimiste. Et je vais lire page 196. Donc alors, en fait, le manifeste est anonyme. Donc il y a des gens qui sont sortis du bois, qui ont dit « bah ouais, j'ai écrit une petite virgule ici ou là ». Dans le mini-réseau, il y avait donc un certain nombre de gens qui vont devenir journalistes. Ça leur appartient à eux de dire s'ils ont contribué ou pas, puisque ça, voilà, c'est le deal. Mais je crois savoir...
Il y avait Tariq Krim aussi ?
Tariq Krim était dans les parages. Il était, on avait des réunions conspiratives dans les bars parisiens, donc tu avais 6 ans. Ah ouais, d'accord.
Mais Tariq Krim, j'en parle un peu dans l'intro parce que c'est un peu un des entrepreneurs.
Alors lui, il va devenir un entrepreneur.
Voilà, il va devenir un entrepreneur du web français avec notamment une des plus grandes réussites de l'entrepreneuriat français dans le monde numérique qui était NetVibes, que moi, je n'ai pas du tout connu pour le coup. Et en ce moment, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vachement revenu sur cette histoire-là parce que lui, il a un point de vue qui est devenu plus économique sur la question de dire, en fait, il y a une nécessité à reparler de l'histoire du web pour pas que aussi les jeunes pensent que en fait le web c'est que ce qu'on a maintenant et que c'est que 5 entreprises et je pense que lui il souffre un peu ou il a envie de parler plutôt du manque de diversité qui vu son parcours doit plus passer par le marché. Donc c'est vrai que pour avoir un web différent il faudrait qu'on ait des formes d'entreprises différentes.
C'est pour ça que je dis qu'il était dans les parages parce que il avait Tariq euh, il il avait déjà une idée de business. C'était le plus américain d'entre nous, on pourrait dire. Mais dans le mini-réseau, je peux le dire, il y avait une dénommée Mona Chollet, qui sera fort connue par la suite pour ses ouvrages féministes. Voilà. Et donc, je voulais lire un paragraphe, page 196. Voilà ce que le mini-réseau écrivait face aux sites commerciaux, aux messages publicitaires agressifs, destinés à ficher et cibler les utilisateurs. Je rappelle, on est en 97. Hein. Putain, ils sont forts, les mecs hein. Et les filles. Le web indépendant propose une vision respectueuse des individus et des libertés. Il invite à la réflexion et au dialogue. Quand les sites d'entreprise se transforment en magazines de l'information et de divertissement, quand les mastodontes de l'infospectacle... Alors, je rappelle, ça, c'est 7 ans avant Facebook. Hein. Et tout le tralala après. De l'infospectacle, des télécommunications, de l'informatique et de l'armement investissent le réseau. Le web indépendant propose une vision libre du monde, permet de contourner la censure économique de l'information, sa confusion avec la publicité et le public reportage, sa séduction à un spectacle abrutissant et manipulateur.
Tout est là. Tu pourrais le réécrire ça aujourd'hui.
Ça pourrait être la baseline de Post. Voilà. Mais dis-moi, pourquoi tu mets ce manifeste qui est quand même moins... qui est d'ailleurs beaucoup plus court que les autres, mais qui n'a pas forcément la même portée que d'autres. Ils ne sont pas tous forcément géniaux. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit qu'il faut quand même que je mette un texte qui émane de la France ou est-ce que parce que dans tes recherches, il est revenu plusieurs fois?
Ouais, je sais pas trop. À la fois, je pense qu'il est revenu. Je pense qu'il y avait effectivement peut-être le petit côté. J'ai quand même envie de mettre des petits Frenchies là-dedans. Et après, il repensait maintenant, mais je sais pas si c'était intentionnel quand je l'ai fait. J'aime bien aussi le truc de le web. C'est aussi un truc de webmestre du coin, tu vois. Et c'est quand même encore en partie vrai. C'est-à-dire, pour reparler de l'action de la fracture numérique, en fait, s'il n'y avait pas un réseau de médiation, s'il n'y avait pas des gens de manière locale qui savaient un minimum en fait manipuler un peu les ordinateurs, les mettre un peu ensemble et aider ceux qui savent pas faire. Ce truc de webmestre, de maintenance un petit peu au jour le jour, ça en fait ça montre aussi que en fait le web c'est un truc fragile, que on a besoin de gens pour le maintenir. Tu vois, pour pas dire que c'est qu'on est dans un monde d'information complètement éthéré où en fait ça coule de source et tout ça, ce qu'on essaye de nous faire croire avec la métaphore du cloud ou avec l'IA générative où on voit pas que en fait il faut qu'il y ait des gens derrière et des infrastructures pour que ça tourne quoi.
Alors je me demande si donne la papate. Tu parlais d'artisans du web, alors là, c'en est un. Ne vient pas d'utiliser l'IA parce que son texte, j'ai pris le train en marche, mais le sujet est cool. Je me demande si je ne vais pas me mettre ce livre sur ma liste. Ça sonne comme du ChatGPT, mon cher Nicolas. Et bon, on ne veut pas, tu es le bienvenu, mais on est bientôt à la fin. Mais je pense que c'est une émission qui peut t'intéresser en rediff. Et un bouquin, Promesse et Utopie, une anthologie des manifeste du web. Il y avait une question dans le chat il y a quelques instants qui nous demande de Timorophile. Beaucoup de critiques de l'innovation ou des techniques sont plutôt réactionnaires. Peut-on être critique sans devenir réactionnaire? Et peux-tu nous présenter des pistes?
Oui, alors être critique sans être réactionnaire, oui, alors, effectivement, il y a en fait, il y a beaucoup de critiques de l'internet qui sont réactionnaires. Je dirais pas forcément ça. Moi, je dirais que les réactionnaires, ils sont quand même plutôt pro technologie, quoi. Après, oui, effectivement, il faut faire au-delà, autrement. Attends, c'était quoi la question?
Est-ce qu'on peut être critique sans être réactionnaire? Alors, en fait, Tim Orofield parlait d'un groupe qui est connu, mais enfin, qui est connu de connaisseurs, qui s'appelle Pièces et Main-d'œuvre, du côté de Grenoble.
Oui. Ah, j'ai compris la référence, d'accord.
Voilà.
Alors, effectivement, il y a toute une technocritique qui vient, en fait, du mouvement plutôt anti-industrialiste. Donc, en fait, dans l'idée de dire que le numérique est une nouvelle industrie et problématique. Et le problème, c'est qu'il y a plein de ces personnes qui, donc Pièces et Manœuvres est une représentative de ça en France, qui, de manière problématique, sont souvent soit ouvertement antiféministes. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est par exemple quelqu'un comme Renaud Garcia, je crois, qui écrit des livres vraiment hyper problématiques, ou aussi qui sont sur des enjeux plus vraiment sur des enjeux environnementaux. Ils sont vraiment, par exemple, à défendre une vision de séparation entre la nature et la culture, entre la nature et le monde industriel. Choses qui ont été vraiment très remis en cause par toute l'anthropologie et tout ça. Donc le problème, effectivement, c'est comment rester anti-technologie sans verser dans une veine qui ferait comme si, en fait, par exemple, la nature pouvait être complètement prémunie de toute intrusion. Voilà. Après, en ce moment, là, c'est intéressant parce que dans un autre contexte, en fait, je travaille pour une maison d'édition qui s'appelle Audimat et on est en train d'éditer.
Et tu as une revue qui s'appelle Tech.
Voilà, exactement. Et donc, dans Tech, on est en train d'éditer un texte du collectif.
Tech, ça s'écrit T-E-Q-U-E.
Exactement.
Et c'est j'ai vu les couvertures, c'est vraiment vieille école, quoi.
Ouais, dans les couvertures, oui, clin d'œil,
bien sûr.
Clin d'œil, notamment certains peut-être reconnaîtront. Il y a le premier logo et un clin d'œil à Tikoun et à certains groupes marxistes. Mais sinon, en fait, on est en train d'éditer un nouveau texte.
Donc Audimat.
Chez Audimat, dans la collection Tech, qui est une sorte de manuel de comment faire face un peu aux réactionnaires, en fait. Et comment, d'une certaine manière, rester en technocritique sans être réactionnaire. Et en
alors, fait, donne-nous des pistes.
En fait, ça passe en partie par vraiment la critique de ces textes-là. Notamment, alors moi, parce que je travaille plus sur les enjeux environnementaux, en fait, cette scission entre cette volonté de défendre à tout prix une nature inchangée, c'est complètement obsolète par rapport à l'évolution du monde où, en fait, le capitalisme et la technologie a déjà envahi le monde. Donc, on est plus dans un truc de dire vivons dans les ruines du capitalisme plutôt que de dire qu'il ne faut pas que le capitalisme envahisse la nature, quoi. Donc là, il y a un peu des confusions. Mais non, je pense que dans le problème de l'anti-industrialisme et de ces technocritiques, c'est en partie qu'ils sont très passéistes aussi. Donc là, il y a quand même aussi une vision de retour, parfois un espèce d'âge d'or qui est complètement fantasmé et tout ça. Je pense qu'il y a ces aspects-là. Après, ils sont... Voilà, il y a aussi... Pourquoi ils ont été critiqués, c'est qu'ils sont aussi réactionnaires sur plein d'autres aspects qui n'ont pas forcément de rapport avec la technologie. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé. C'est aussi parce qu'ils sont ouvertement anti-LGBT, anti-féministes et tout ça. Je pense que c'est quand même beaucoup pour ça qu'on en a parlé. Et le problème, c'est que certaines fois, sur certains aspects, à certains moments, on va être d'accord avec leurs critiques technologiques. C'est là où c'est pas forcément facile, quoi. Heureusement, moi, pour l'instant, je discute pas trop avec eux. Donc,
on parlait tout à l'heure de. Alors, moi, je les connais pas, mais c'est toujours un peu délicat de. Voilà, ils ne sont pas là pour répondre. S'ils veulent le faire par un petit texte, ils pourront le faire. J'ai lu des choses d'eux, mais il y a très longtemps, donc j'ai pas tout à fait suivi le virage. Alors, je voudrais quand même qu'on termine avec l'intelligence artificielle, qui est donc l'absent de cet ouvrage, mais pour des raisons très simples, cet ouvrage est là pour le web. Mais il me semble que tu as travaillé comment ça s'appelle déjà
Dataktivist. J'ai travaillé chez Dataktivist, ouais.
Voilà. Alors, chercheur au sein de la coopérative française Dataktivist, où tu aidais les organisations à expliquer et documenter leurs algorithmes, hein, c'est bien ça?
Ouais, j'ai fait ça, ouais. C'était dans le passé, je veux dire.
Voilà.
Mais, je ne fais plus ça maintenant. Mais...
Voilà. Mais alors, la question que je voulais te poser, tu as parlé à différentes reprises de la question environnementale qui échappait aux auteurs de ces manifestes. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas en France de lutte contre les data centers comme il y a une lutte contre les méga-bassines, par exemple ?
En fait, ça existe. Il y en a très peu, mais il y a quand même vraiment une lutte qui se mobilise. Le collectif le plus aguerri, on va dire, et le plus organisé, il a un très beau nom. Il s'appelle Le Nuage était sous nos pieds. Donc, si vous tapez Le Nuage était sous nos pieds, ils ont un site web vraiment génial où ils font vraiment une lutte, y compris administrative, de répondre aux enquêtes publiques quand il y a des nouveaux data centers, venir avec des arguments. Donc, il y a des collectifs comme eux qui, au fur et à mesure des années, depuis 2022 plutôt, ont réussi à s'auto-former sur la question des infrastructures et des data centers. Mais c'est en train de pulluler puisque en fait il y a plein de nouveaux projets de data center, surtout depuis février 2025, le sommet mondial de l'IA qui était à Paris, mm-hmm. où Monsieur Macron a réussi à faire venir.
Alors ici on n'est pas obligé de dire Monsieur. Hein.
Je regarde ce qu'il y a le portrait de.
Alors non, ça c'est un autre président.
Ça c'est un autre. Ah, oui.
C'est un autre président. Je ne sais pas si Nayan pourra le montrer. C'est
bon, Emmanuel, on l'appellera.
Pas de familiarité. Macron. Donc Macron qui avait annoncé beaucoup de pognon.
Voilà, et il a réussi à faire venir plein de pognon, notamment étrangers. Donc aussi pour dire que du coup, la question de la souveraineté ne fonctionne pas. Mais il y a une lutte contre les data centers qui est en train de se mettre en place. Les soulèvements de la Terre y travaillent et d'autres. Le problème, c'est qu'il y a une opacité énorme sur ce sujet. Et aussi du point de vue de comment on peut se saisir du sujet. C'est un échec du point de vue de la régulation administrative. C'est-à-dire un des seuls endroits où, en tant que citoyen, on peut avoir une voix, c'est lors d'une enquête publique. Donc c'est le moment où, en fait, il y a un projet de data center, il y a un commissaire qui est nommé, il y a un dossier administratif, et on peut faire valoir nos arguments. Et la plupart du temps, ils sont enregistrés et mis de côté, quoi.
Alors, il y a Dioy qui m'attrape par la veste. Il y a une organisation, notamment contre Campus IA. Il y a également le nom de Data for Good est pas mal impliqué sur le sujet. Donc voilà, il y a un certain nombre de... Et il y a Emeric qui nous dit que Infomania, qui est un hébergeur suisse, fait tourner son data center en 100% en énergie renouvelable. Bon.
Tant mieux. C'est mieux que du pétrole. C'est toujours mieux que du pétrole ou du gaz. Mais après, ça ne va pas tout faire. Puisque, effectivement, il y a beaucoup cet argument de dire en France. Alors, Infomania, qui sont quand même beaucoup plutôt en Suisse. Mais enfin, je pense qu'il doit peut-être faire référence à ça. Parce que c'est un campus à Genève qui est beaucoup mis en avant pour son efficacité énergétique. Effectivement, en France, le discours, c'est de dire on a plein d'électricité, on a plein de centrales nucléaires. Donc. L'énergie, c'est pas un problème.
Et on a plein de déchets nucléaires qui vont avec.
Voilà.
Il est temps de laisser les uns et les autres se procurer ton ouvrage et de le lire parce que c'est du solide, c'est du dense. J'ai deux petites questions rituelles. La première, c'est as-tu une recommandation culturelle à faire ça peut être un film, un disque, des timbres, n'importe quoi, j'en sais rien.
Là, le premier truc, je pense que ça va être le dernier truc que j'ai vu, c'est une expo à la Poste Rodier, donc, qui est dans le 9e, qui est un lieu géré par...
À Paris,
qui est géré par le pavillon de l'Arsenal. C'est une exposition qui s'appelle Stock, qui est une exposition sur les architectures de la logistique. Donc s'intéresser à l'invisible de nos vies, le monde de la logistique, le monde des data centers, qui font que les choses circulent, mais on ne s'en rend pas bien compte, quoi.
Comment s'appelle l'exposition ?
Stock.
Stock. Très bien. Et l'autre question, la question rituelle, qu'est-ce que nous avons fait pendant une heure et quart ?
On a jacassé.
C'est bien. Merci.
Bon, continuons.
Merci à toi. Bonne chance pour la sortie du bouquin. Je redonne la couverture. Promesse et utopie, l'anthologie des manifestes du web.
Merci.
Mes amis, nous sommes sur opposte.fr. abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est au poste, auposte.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement, non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Abonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr. Abonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer les récits, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous.
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous.
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Auposte.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là, Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, il faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, il faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Oh, bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr.